L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. C'est aujourd'hui Philippe qui vous accueille pour cette émission des Échos de la solidarité. Et comme vous le savez sans doute, nous sommes dans la grande quinzaine de la solidarité internationale qui a été lancée samedi avec soleil et musique sur la place de la Comédie. Cette quinzaine sera animée de beaucoup de soirées, beaucoup d'événements jusqu'à la fin de la deuxième semaine. Et dès ce soir, salle Rabelais, comme vous le savez, une première rencontre à 19h sur la Palestine et les autres peuples confinés. Venez nombreux, salle Rabelais à 19h dès ce soir. Et vous aurez le programme de cette quinzaine, évidemment, tout à fait accessible sur le site de la Maison du Tiers-Monde, avec beaucoup de participation et beaucoup d'événements pratiquement chaque soir. Aujourd'hui, nous accueillons deux associations très présentes dans la quinzaine. Nous accueillons l'Appel, l'association L'Appel, représentée en Occitanie et coordonnée par Michel Collomb. Bonjour Michel.
Bonjour.
Nous accueillons également l'association Coup de Soleil, qui a également une soirée dans la cour de la quinzaine, avec Monsieur Bachir Adak.
Pardon. Bonjour Bachir Adak.
Bonjour Bachir. Voilà. En première partie, nous allons échanger avec l'Appel, et puis en deuxième partie, nous reviendrons à Coup de Soleil. Donc, Michel, on va peut-être rappeler, bien que vous soyez venu sur ces ondes récemment, ce qu'est l'Appel, cette association de solidarité nationale qui comporte un certain nombre d'antennes en France.
Oui, eh bien, l'Appel a été créé pendant la guerre du Vietnam, donc il y a plus de 50 ans, par des médecins pédiatres qui s'inquiétaient des bombardements qui risquaient de, bien sûr, blesser beaucoup d'enfants. Donc là, des liens se sont créés. Puis ensuite, on est passé du Vietnam à d'autres pays, y compris d'ailleurs le Maroc et l'Algérie. On a été aussi beaucoup en Amérique latine, en Afrique. Voilà. Et actuellement, l'Appel fonctionne avec 6 antennes. Il y en a une qui est en train d'ailleurs de se créer, de se formaliser en quelque sorte. C'est celle de Grenoble qui s'est longtemps occupée déjà du Rwanda et qui maintenant va migrer vers le Madagascar. Voilà.
Donc, coordonnateur Michel pourrait nous parler longtemps de l'Appel national puisqu'il est au conseil d'administration.
Conseil d'administration.
Mais, un petit mot, Michel, de ce qui se passe plus particulièrement en Occitanie, avec notamment les pays où nous intervenons.
Alors, en Occitanie, nous avons une antenne qui a maintenant presque 20 ans. Presque 20 ans. Et nous intervenons particulièrement au Burkina Faso, avec un parrainage d'enfants concernés par le VIH, qui en est à sa 12e année, à peu près. Et puis, nous intervenons également au Togo, avec des écoles primaires, où nous faisons une initiation à l'hygiène et à la nutrition, et une initiation qui s'accompagne d'équipements durables que nous installons dans ces écoles. Et puis, nous intervenons aussi à Madagascar en aidant une communauté religieuse à développer des cantines pour les enfants des rues aux portes de Tananarive.
J'imagine que vous avez été pas mal perturbé dans vos actions par la pandémie et également, bien sûr, par l'insécurité, notamment au Burkina.
Alors, effectivement, le principal obstacle, ça a été l'interdiction, l'absence de possibilité de faire des missions pendant près de 18 mois maintenant. On espérait pouvoir reprendre là en septembre, fin septembre, mais là aussi on a dû repousser parce que les contraintes sanitaires font qu'on risquerait de passer plus de temps en quarantaine dans un hôtel à attendre d'être autorisé qu'auprès de ses partenaires, quoi. Voilà.
Nous avons rencontré à l'occasion d'Afrique en fait notre correspondante à Bobo Dioulasso, Christine Cafondo.
Christine Cafondo, oui.
Est-ce que de ce point de vue, puisque l'appel s'occupe essentiellement des enfants, est-ce que de votre point de vue, les enfants ont été particulièrement impactés par l'insécurité au Burkina ?
Alors, il y a effectivement le problème de la pandémie et il y a le problème de la sécurité dans le secteur nord du pays, nord et est du pays, c'est-à-dire vers les frontières du Mali, du Niger et du Bénin. Et là, ce sont effectivement des familles et près de 20 000 enfants qui ont dû quitter cette zone et qui sont scolarisés plus à l'intérieur du pays, avec le gouvernement burkinabé a relativement bien géré cette affaire, puisqu'ils ont doublé les encadrements d'enseignants dans ces secteurs pour pouvoir accueillir les enfants des zones attaquées par les terroristes.
Au Togo, à ma connaissance, les problèmes d'insécurité ne se posent pas avec la même acuité ?
Non, il y en a pas, à ma connaissance également, il n'y en a pas actuellement. On travaille dans une petite ville qui se trouve à 100 km à l'intérieur des terres, par 100 km de Lomé, et on intervient dans 7 écoles primaires, publiques et privées. Il faut préciser qu'en Afrique de l'Ouest, la plupart des écoles primaires sont des écoles payantes, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs. Voilà.
Oui, d'où l'intérêt de pouvoir faire du parrainage scolaire qui n'est pas extrêmement coûteux pour un occidental et qui en fait peut permettre à un enfant d'être scolarisé.
Alors, au Togo, on fait plutôt un parrainage d'école, en quelque sorte, puisque on essaye de les aider à former les enfants à la nutrition, les enfants et leurs parents et leurs familles, à la bonne nutrition, aux règles de nutrition, et puis aussi au lavage des mains, à toutes les précautions à prendre sur le plan hygiénique pour éviter l'épidémie, en particulier. Il y a eu d'ailleurs des résultats positifs puisque beaucoup de ces écoles n'étaient pas dotées de connexion au réseau d'eau. Et grâce à notre projet, le gouvernement a décidé de leur donner un accès à l'eau, ce qui est quand même une avancée considérable.
Voilà. C'est l'occasion de rappeler les deux outils très appréciés de l'appel, que sont les NutriCartes d'une part, qui permettent aux gens d'équilibrer leur ration nutritionnelle, voilà. Et Ballet Santé, qui a été mise au point
à
par
Montpellier.
L'antenne de Montpellier,
oui.
Et qui a maintenant une version numérique qui en permet une très large diffusion.
Voilà, c'est une version qu'on trouve sur Internet, qui est gratuite, et elle s'appelle Ballet Santé. Et elle donne toutes les indications pour avoir resté en bonne santé et pour éviter les maladies contagieuses qu'on trouve dans la zone sahélienne.
Donc, pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions, le jeudi 18 novembre, à l'espace Martin Luther King de Montpellier, une soirée sera animée par l'association L'Appel et l'association Les Enfants du Mékong sur justement toutes ces questions liées à la pandémie et à la scolarisation des enfants qui, dans certains cas, a été quand même fortement perturbée par la pandémie du Covid. Et venez nombreux, c'est donc, je le rappelle, le jeudi 18 novembre à l'espace Martin Luther King. Nous allons faire, si vous le voulez bien, une petite pause musicale avant d'aborder Coup de Soleil. Et c'est donc une chanson d'Angélique Kidjo, cette chanteuse que nous adorons tous, que nous allons écouter ensemble. Aïe, thank you. changerais volontiers l'écoute d'Angélique Kidjo. Mais après avoir écouté le coordonnateur de l'appel, nous parlons maintenant avec Monsieur Bachir Dahak de l'association Coup de Soleil, qui est aussi une association de solidarité nationale, mais qui a une antenne à Montpellier, dans laquelle milite Monsieur Bachir Dahak.
Oui, Coup de Soleil donc, est une association nationale créée en 1985, avec pour objectif de essayer de rapprocher les cultures des pays d'ici et celles des pays d'Afrique du Nord, et avec l'idée effectivement de combattre les a priori, les préjugés sur les cultures des pays du Sud, avec l'idée effectivement que notre association est à vocation culturelle, mais il nous est arrivé très souvent, depuis ces 10 dernières années, 15 dernières années, d'aborder souvent des questions politiques de premier niveau, comme la question des droits de l'homme, le journalisme. Nous avions invité en 2010 des journalistes tunisiens, marocains et algériens. Et ils avaient presque annoncé à Montpellier, en juin 2010, la prochaine révolution de 2011 à Tunis. Une dame avait dit, c'est une cocotte minute qui peut exploser d'un moment à l'autre. Donc, et c'est ça l'activité de Coup de Soleil. C'est effectivement une activité culturelle, avec le coup de cœur littéraire qui est là depuis...
Voilà, à Montpellier, vous avez ce coup de cœur qui permet de mettre en évidence un écrivain de
oui,
ces zones,
du Maghreb.
Et comme vous le disiez, vous avez aussi des engagements, j'allais dire presque politiques. Et ce sera le cas de notre réunion du 19 novembre, oui. Où vous aborderez la question de l'impact de la pandémie sur les mouvements de résistance
oui,
au Maghreb.
Tout à fait. Parce que en 2019, donc, brusque mouvement social qui envahit les rues d'Algérie, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, qui embrasse toutes les populations, toutes les couches sociales. C'est absolument exceptionnel, c'est unique, c'est inédit. Avec une telle force en termes de masse de populations qui interviennent dans les villes moyennes, dans les grandes villes, que le pouvoir est un peu inquiet de ne pas pouvoir affronter ce mouvement par la répression. Et donc il observe, il regarde un peu ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il répond à une des premières revendications, c'était pas de cinquième mandat pour le président qui voulait effectivement être une cinquième fois de façon illégitime et malhonnête. Donc en avril 2019, on obtient effectivement un départ en catimini du président. Et on attend effectivement que le pouvoir se définisse par rapport à ce mouvement de masse qui veut moins de corruption, qui veut plus de démocratie, qui veut plus de participation des gens, qui veut moins d'affairisme, moins de népotisme, etc. Tout ça, c'était effectivement dans le cœur de Hirak. Donc en 2019, nous sommes à la fin de l'année, c'est le moment où le mouvement a atteint un peu sa vitesse de croisière. On commence à percevoir des leaders nationaux, même s'il y a des divergences, mais enfin, on commence à percevoir une espèce de trame générale de ce mouvement qui ne veut pas que ce pouvoir continue à fonctionner de la même façon.
Ce qui était remarquable et ce qui nous a beaucoup frappé en France, c'est le caractère absolument pacifique de ce mouvement, d'une part, et également la participation de toutes les générations, je dirais, du peuple algérien, avec des jeunes, avec des femmes et des gens plus anciens également, et toujours dans le plus grand calme.
Tout à fait. C'est ça qui a déstabilisé d'ailleurs le pouvoir, parce qu'il aurait souhaité effectivement qu'il y ait de la violence, qu'il y ait des black blocs, comme on dit en France, je ne sais pas quoi, pour justifier ça. Mais là, non, pas du tout. Non seulement il n'y avait pas de mouvement de destruction de biens publics, absolument aucune violence, mais quand il y en avait, rapidement, les gens arrivaient à la canaliser. Donc, il n'y a pas de violence exprimée pendant les mouvements de Hirak, quelles que soient d'ailleurs les régions d'Algérie. Dans toutes les régions d'Algérie, les gens ont manifesté à Tlemcen, à Ouargla, à Alger, au Oran, partout, toujours dans un calme absolument impressionnant, parce que toutes les couches sociales étaient présentes.
Et avec la pandémie, dès 2020
alors justement, d'abord, avant même la pandémie, donc on est à la fin de l'année 2020, de 2019, la répression, la machine répressive a commencé à se mettre en marche. Donc il y a plein de procès qui ont commencé à avoir lieu. On a une presse du pouvoir qui commence à sortir des fake news sur des leaders, etc., sur leur participation à des organisations internationales, etc., voilà, pour essayer de les discréditer, quoi. Et donc, on a déjà, fin 2019, le schéma de la répression qui s'annonce. Mais il y a toujours cette incapacité d'affronter le Hirak de façon massive, parce qu'effectivement, il y a trop de gens dans les rues, et puis... Des leaders, des poètes, des jeunes poètes. On a vu des jeunes de 19 ans qui se sont mis à expliquer la constitution dans la rue. On a vu des... Enfin, c'était absolument exceptionnel. Mais le pouvoir a su, rapidement, dès le mois de février d'ailleurs, que la pandémie va être exploitée pour tout verrouiller. Et donc, non seulement verrouiller au nom de la logique sanitaire, mais en même temps, la logique sanitaire s'est doublée aussi d'une répression politique et judiciaire. Donc, on n'a pas simplement utilisé la pandémie pour lutter contre le Hirak, mais on a aussi doublé, couplé la répression sanitaire avec la répression politique. Donc, souvent, le pouvoir disait « Oui, mais c'est pour le bien des gens que nous avons décidé de demander aux gens de ne plus manifester. C'est pour le bien des gens que nous avons décidé de bloquer les manifestations. » Mais alors pourquoi est-ce qu'on a continué donc à réprimer, à arrêter jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, je viens de lire la presse d'aujourd'hui, le tribunal de Sénéa, Oran, a rendu 11 irakistes jugés le 27 septembre dernier. Ici, le tribunal de Zemmoura, donc dans tout le pays, à Bosch-Boyariz, 11 activistes de Jafra, qui ce sont toujours des gens du mouvement. Hein. Donc, tous les jours, nous avons effectivement des tribunaux qui prononcent. Alors, le bilan, c'est qu'on est pas loin de 300 prisons d'opinion. Après 293 chefs qui circulent depuis quelque temps, 293 prisonniers d'opinion, donc des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils manifestaient pendant l'Irak. On a même mis en prison des avocats avec leurs clients.
Donc nous sommes toujours avec Bachir Daag de l'association Coup de Soleil. Vous venez de nous parler de la situation en Algérie. Est-ce qu'il y a des problématiques comparables dans les autres pays du Maghreb ?
Tout à fait. Même s'il n'y avait pas en Tunisie et au Maroc, face aux simultanées ou concomitantes, un mouvement aussi massif, il y avait au Maroc et en Tunisie des mouvements sociaux qui commençaient à sortir dans les rues, à essayer de participer à la vie politique. Et bien sûr, la pandémie, le régime marocain l'a utilisé. La Tunisie aussi a vu cette utilisation de la pandémie pour... C'est un peu partout, au Chili, hein, je peux citer plein de pays dans le monde. La pandémie a été une bénédiction pour tous les régimes autoritaires qui ont trouvé effectivement là le moyen de Sauf qu'en Algérie, donc, contrairement à ce que raconte la presse du pouvoir, l'arrêt des manifestations pour raisons sanitaires s'est doublé d'une croissance absolument exponentielle de la répression judiciaire.
Donc le 29, nous aurons une soirée... Le 19 novembre, nous aurons une soirée sur ces questions. Un invité particulier arrive d'Alger.
Oui, c'est un journaliste. Journaliste qui est impliqué dans la coordination des droits des journalistes emprisonnés, sur la coordination des prisonniers d'opinion. Il est très impliqué là-dedans. Et donc, quand on m'a demandé, effectivement, il a participé à des émissions de radio sur la pandémie et le Hirak, etc. Et donc, il viendra le 19.
Est-ce qu'il peut exercer son métier de journaliste dans de bonnes conditions à Alger ?
Écoutez, il n'y a pas de journaliste aujourd'hui qui ne prend pas de risque en prenant la parole. Donc, vous avez vu, même les journalistes les plus connus, hein, ont été emprisonnés quand même, ont été traînés dans les tribunaux et dans les prisons pendant un an et demi, des journalistes très connus. Donc le pouvoir n'a pas hésité, après le début de la pandémie, à mettre en prison des journalistes crédibles, combatifs, etc. Donc bon, espérons qu'il n'aura aucun problème. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Donc espérons qu'il continuera à travailler correctement.
Donc, vous serez amené également à aborder les questions qui se posent également au Maroc et en Tunisie à l'occasion de cette soirée.
Je pense que le conférencier fera allusion à ce qui s'est passé au RIF, par exemple, et ce qui s'est passé en Tunisie.
D'accord. Donc, nous vous le rappelons, cette soirée a lieu le 19 novembre à 19h, salle Guillaume de Nogaret. Il s'agit des conséquences de la pandémie sur les mouvements de contestation dans les différents pays du Maghreb. Et un intervenant, journaliste à Alger, M. Mehdi Amazigh Daak, n'est-ce pas, sera là pour animer cette soirée. Je vais en passer à quelques annonces, comme il se doit à la fin de chaque émission. Je reviens donc à l'appel qui, non seulement à sa soirée, que nous avons déjà annoncée, mais qui a également un repas le samedi 27 novembre, donc à la fin de la quinzaine. Et je vais peut-être demander à Michel d'en dire un petit mot.
Oui, donc nous allons clore la quinzaine cette année avec notre repas annuel qui se tiendra au centre œcuménique de Jacou à partir de 19h-19h30, mais qui sera précédé par un prologue musical avec l'orchestre de jazz, les Jazz Pirateurs, qui sont des musiciens que les Montpelliérains connaissent bien parce qu'on les voit souvent. C'est une sorte de fanfare qu'on voit souvent aux Arceaux ou dans d'autres quartiers de Montpellier. Voilà, donc ça commencera à partir de 16h30-17h.
Et vous nous direz un mot de vos activités dans les différents pays où vous intervenez, Togo,
alors,
Burkina, Madagascar.
Effectivement, après ce prologue musical, on passera à l'apéritif et puis il y aura une petite présentation de nos activités dans les pays où nous intervenons, enfin l'antenne de Montpellier intervient. Voilà.
Très bien, donc, alors venez nombreux à ce repas.
Eh bien, le repas, alors il faut préciser que le repas, il est bien sûr payant, parce que c'est le moyen que nous avons pour assurer quelques ressources. Donc, le prix d'entrée pour le repas est 25 euros. Mais en revanche, l'apéritif et puis la musique est gratuite pour ceux qui voudront venir. Il y a un tramway qui conduit à Jacou. Voilà. Et puis, il y a des possibilités de stationnement à proximité du centre œcuménique.
C'est vrai que le terminal du tram n'est pas loin du tout du centre.
Voilà, en plus.
Merci, Michel.
Voilà, venez nombreux.
Donc, au cours de la quinzaine, il y aura également des événements artistiques, comme par exemple l'exposition artistique Mouvement, qui va avoir lieu va se tenir du 15 au 26 novembre à la Maison des Relations Internationales. Et vous êtes particulièrement convié le mardi 17 novembre à 18h dans le salon de la Maison des Relations Internationales pour le vernissage de cette exposition. Quatre peintres exposeront à l'occasion de cet événement de la quinzaine en la personne de Nadine Amagne, de Sana Medjadi, de Sadiq Farabi, que nous connaissons bien à la Maison des Tiers-Mondes, notre ami marocain, et de Well Rimo. Voilà, donc venez nombreux à cette exposition qui se tient donc du 15 au 26, elle débute aujourd'hui, et qui est ouverte tous les jours de 14h à 17h, sauf le week-end. Je redonne la parole un instant à
Bachir. Oui, juste pour dire
Bachir,
simplement que la conférence qui aura lieu vendredi soir à 19h, sur la pandémie et les conséquences sur le mouvement politique en Algérie, il y aura une exposition de caricatures du très célèbre caricaturiste Dilem, Ali Dilem, donc sur Liberté, et qui on a choisi une vingtaine de caricatures qui illustreront de façon intelligente le propos du conférencier.
La radio ne nous permet pas malheureusement de vous montrer des échantillons dont nous avons pu bénéficier et je vous assure que ça vaut le déplacement. Donc venez à cette conférence et venez admirer les caricatures en question. Parmi les autres annonces, on nous demande aussi de parler d'un rassemblement le 18 novembre à Montpellier et à Paris. Rassemblement pour soutenir 7 demandeurs d'asile qu'on appelle le groupe des 7 qui ont posé un recours pour lever leur obligation de quitter le territoire français, ce qu'on appelle le QTF. Tous ceux qui s'occupent des migrants connaissent très bien ces deux abréviations, l'OQTF et l'IRTF, l'IRTF étant l'interdiction de revenir sur le territoire français. Et ces recours seront examinés au tribunal de Montpellier très prochainement. C'est dans cet esprit que ce rassemblement aura lieu à 12h30. Le 18 novembre, place des Martyrs de la Résistance, donc devant la préfecture de Montpellier. sachant que cette invitation est signée de nombreuses associations que vous connaissez bien, telles que l'ATAC, la CIMAD, le RESF 34, etc. Donc c'est très important de manifester à cette occasion pour obtenir justice pour ces demandeurs d'asile. Je vous rappelle enfin que ce soir commence un grand événement de la quinzaine des tiers-mondes avec à la salle Rabelais, à 19h, la Palestine et autres peuples confinés. Merci de venir nombreux. Et comme vous le savez, pratiquement toute la semaine, des événements vont se succéder dans différents lieux de notre ville de Montpellier avec une problématique centrale dans nos événements de cette année qui est autour de l'impact de la pandémie sur un certain nombre de problèmes dans les pays où interviennent nos associations de la Maison des Tiers-Mondes. C'est ainsi que mardi, des questions de santé seront abordées à propos de la pandémie. C'est à l'espace Martin Luther King à 19h. Mercredi, à nouveau, des questions liées au Covid dans le monde en général, avec une table ronde mercredi 17 novembre à l'espace Martin Luther King. Une table ronde qui sera animée par des représentants du Secours catholique, du Comité Nicaragua-Occitanie et de Haut pour la vie. Le 18 novembre, on l'a déjà dit, on le rappelle, à 19h à l'espace Martin Luther King, les associations L'Appel et Enfants du Mékong parleront de l'impact de la pandémie sur la scolarisation des enfants. Et j'en termine pour rappeler que le vendredi 19 novembre, nous nous retrouvons salle Guillaume de Nougaret pour parler des conséquences de la pandémie sur les mouvements de contestation au Maghreb, soirée animée par un journaliste algérien qui vient spécialement d'Alger à cette occasion, M. Mehdi Amazigh Daak. Merci à tous et venez nombreux participer aux événements de la quinzaine de la solidarité internationale. Merci.